Depuis 40 ans, nous sommes dans une crise de l'Église. Et actuellement, y a un tournant. On ne sait pas où ça va aller, à droite, à gauche, dans le mur, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a un tournant. Ça bouge. Bon. En tout cas, donc, un peu un certain point de l'année. Je reprendrai pour ça quelques écrits qu'il y a eu dans la fraternité, spécialement l'instruction de Monseigneur Felet, la lettre aux aimés bienfaiteurs. Bon, je ne sais pas ce qu'il en était dans vos paroisses depuis le début de l'année. Bon, en général, les gens des grandes villes sont toujours un petit peu excités, quoi. Comme ça. Ils ont besoin de ça pour vivre. Que ce soit Paris, que ce soit Lyon. Trahison. Quel est le dernier complot? Ah, je suis le seul au courant. Hey, moi, je sais. Internet. Branché. Ouais. Ouais. J'aime bien aimer. Avec Belmont, là, dans le sel de la terre. Virgo Maria, Varia Margot, je sais plus comment elle est traduite. Les sites, c'est des vacantistes. Hein. Casse les pieds, ceux-là. Tracassiers. Bon. Donc, entamons l'église. Et c'est très beau de voir que leçon 86 du catéchisme du Père Emmanuel, donc les questions qui concernent l'Église, les leçons qui concernent l'Église. Premièrement, l'Église ou le royaume de Dieu. Leçon 86. Deuxième leçon, ce qu'est notre Seigneur dans l'Église. Ce qu'est notre Seigneur dans l'Église. Il ne l'a pas ajouté, mais aussi ce qu'est l'Église dans le monde, ce qu'est notre Seigneur dans l'Église et ce qu'est notre Seigneur dans le monde. Mais à cette époque, il y avait peut-être moins besoin d'y insister, encore qu'il a beaucoup écrit contre le naturalisme et le libéralisme, le Père Emmanuel. Ses écrits sont remarquables, vraiment, c'est un spirituel et c'est un homme de doctrine, de foi, et un contemplatif. Hein, on dit qu'il a eu une apparition, il cherchait des explications d'Écriture sainte, et je sais plus si c'est un docteur de l'Église ou Saint Paul qui est apparu pour lui expliquer le passage qui lui faisait difficulté. C'est pas n'importe qui, le Père Emmanuel. Hein. Ben, que vous voyez le bonhomme en photo, c'est. C'est pas un petit. Bon, et dans son âme, c'est pareil. Premier constitutif de l'Église, la foi. Premier constitutif de l'Église, la foi. Nous n'osons ajouter catholique. Pas la foi fidéiste des protestants. La foi confiance, sous prétexte de biblisme. Parce que souvent, la foi de notre Seigneur, quand il demande la foi, c'est vrai que c'est mêlé à la confiance. Mais ce n'est pas d'abord la confiance, loin de là. Deuxième principe constitutif de l'Église, les sacrements. Troisième principe constitutif de l'Église, la hiérarchie, l'autorité, dont on a une très fausse conception aujourd'hui. Même dans l'ordre de la philosophie politique naturelle, beaucoup d'erreurs. Doctrine faussée. L'Église sortant des mains de notre Seigneur. Et après, en prolongation et utilité, l'Église et l'Écriture sainte. On en a plein la bouche aujourd'hui. On revient à l'Écriture. Avant, on n'avait pas l'Écriture. L'Église, la tradition, l'Écriture, leçon 93. Voilà. C'est 8 leçons. On ne va pas tout lire, je vais prendre quelques questions, simplement. Les noms de l'Église dans la Sainte Écriture. Royaume de Dieu, cité de Dieu, maison de Dieu. Royaume, les paraboles du royaume de l'Évangile. Cité, maison. Nommée pour nous faire reconnaître que par sa foi et son obéissance, elle est soumise à Dieu, comme les sujets à un roi dans son royaume, comme les citoyens à un magistrat, comme les enfants à un père dans une maison. Pourquoi d'abord le bon Dieu nous parle un peu, nous dirions, par des métaphores? Pour nous mettre sur la voie que l'Église ressemble à. Et quand on fait des ressemblances, des analogies, etc., c'est qu'on veut induire qu'il y a un mystère. Et ça nous met sur la voie petit à petit que l'Église est un type de société très particulier qui est surnaturel. Surnaturel, c'est une réalité surnaturelle. Et pour l'exprimer, il va falloir qu'on ait une bonne philosophie. Sinon, on ne va pas respecter les analogies et on va faire du n'importe quoi. Jusqu'à en arriver à remettre en question, comme les protestants ou plus ou moins comme les modernistes, le concept de société visible. Car pour expliquer l'Église, il nous faudra deux concepts, l'Église société et l'Église corps mystique. Il y a eu tout un débat à Vatican Ier sur cette question. Fallait-il davantage insister sur le corps mystique, davantage sur la société ? Une question d'insistance à l'époque. Aujourd'hui, il est question d'en faire disparaître un le plus possible. La notion de société, c'est celle qu'il faut vraiment montrer les dents. Société visible, corps mystique, tout ce que vous voulez, oui. Et c'est très beau de le développer. Mais pas jouer l'un contre l'autre, avec une dialectique moderniste. Alors l'Église est aussi appelée un champ, une vigne, un troupeau, selon ce qu'elle veut désigner. Elle est aussi une barque, et nous voilà embarqués, parce qu'elle porte en elle les enfants de Dieu, et qu'à travers les périls du monde, au milieu des mauvais esprits qui nous haïssent d'une haine implacable, sous le souffle victorieux du Saint-Esprit, elle nous mène au port de la bienheureuse éternité. Ça, c'est tout la leçon 86. 87. Les autres noms. Qu'est-ce qu'est notre Seigneur dans l'Église ? Il est. C'est très beau ces noms de notre Seigneur. On pourrait les mettre dans notre litanie du Saint-Nom de Jésus. Pierre angulaire, pour indiquer qu'il est le fondateur. Pierre angulaire. Pasteur. Pasteur bonus, Saint Jean 10, l'époux, là c'est le corps mystique précisément, la lumière, la vérité, le maître de vérité, le vêtement de l'Église, la nourriture de l'Église, et encore la vie. Et tous ces noms, dit le Père Emmanuel, sont des noms pleins de grâce et de vérité. Alors il explique après chacun de ces titres. On ne va pas les faire, on va les laisser, parce que ce n'est pas le plus important. Puisque le titre aujourd'hui de notre introduction, c'est notre appartenance à l'Église. Pour appartenir à l'Église, il faut la foi, les sacrements, être soumis à la hiérarchie. En tant que cette hiérarchie est l'écho de la tradition. Ajoutons cela aujourd'hui. Et le bon catéchisme, si vous tombez sur ce catéchisme, c'est très bien ce catéchisme, en plus c'est très pédagogique. Le catéchisme a été édité en 3 éditions, qui a fait ça ? C'est DFT ou... Spirago ! Très bien ! Ah, oh, très bien Spirago ! Texte gras, petit texte, plein d'exemples. Alors cherche l'endroit où il a mis ça. Qu'est-ce qu'il faut être pour être un catholique ? Bon. J'ai vu ça, je ne trouve pas. Mais de mémoire, c'est être baptisé. Baptisé catholique. Être baptisé. Professer la foi. Fréquenter les sacrements. Catholique. Et être soumis à la hiérarchie catholique. En tant qu'elle est catholique et écho de la tradition. Pas en tant qu'elle vient nous prêcher une nouvelle religion. Ah, c'est dommage, c'était très bien. Ah, voilà. Spirago. Alors, Spirago. Le passage sur l'Église, le symbole. Je vais vous situer ça pour ceux qui aiment bien les références. En général, les dominicains, c'est tout est référencé, tac, 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 dans les églises, les retraites de chrétienté. Alors, l'Église catholique et son organisation. 9e article du symbole, l'Église. Alors, dans ce chapitre, donc. Ensuite, il va donc traiter de le chef visible de l'Église, la hiérarchie, et juste après les évêques, les prêtres, les fidèles, un catholique, numéro 3, un catholique, page 152 dans mon édition, un catholique est celui qui est baptisé, professe extérieurement qu'il est membre de l'Église catholique. Et il ajoute, je lis texte en gras, mais un vrai catholique, c'est celui-là seul qui, étant baptisé, et membre de l'Église, s'efforce sérieusement d'arriver à la vie éternelle. Par conséquent, il croit aux doctrines de l'Église, il garde les commandements de Dieu et de l'Église, il reçoit les sacrements et il prie Dieu selon la manière prescrite par Jésus-Christ. D'où découlent pour lui des droits et des devoirs. Alors c'est intéressant ce qu'il met dans le petit texte. On n'est donc pas un vrai chrétien quand on ne sait même pas sa doctrine chrétienne, son catéchisme. Importance de l'étude. Hein. Ah oui, vous pensez étude, alors oui, on fait très spéculatif, passer nos diplômes de philo, de théologie. Non ! On revoit son catéchisme, mais on n'en reste pas son catéchisme de 12 ans, parce qu'à 40 ans, on se pose d'autres questions qu'à 12 ans. Ah ! Alors vous avez dans vos priorités des catéchismes pour adultes, très bien. Allez les suivre, et puis lisez, quoi, et puis interrogez. Si on était ainsi, un catholique, très bien, un catholique qui ne sait pas son catéchisme, on est dans le cas d'un individu qui se présente comme peintre ou comme médecin et qui n'entend rien à son art. Voilà. Hein, on peint, on fait de la médecine, puis on oublie complètement ce qui est quand même utile du point de vue pratique dans l'exercice de son art. L'art d'être chrétien. Un chrétien qui ne reçoit pas les sacrements, qui ne prie pas, ressemble à un soldat sans armes, à un artisan qui n'exerce pas son métier. À notre époque, hélas, il parle fin 19e. À notre époque, hélas, il n'y a que trop de chrétiens qui ne méritent pas leur nom. Ils portent ce titre parce qu'ils ont reçu le baptême et ils en ont un extrait, mais ils vivent comme des païens. On pourrait les appeler des païens sur le papier ou des païens chrétiens. Quelle responsabilité pour l'éternité. Et Louis de Grenade, le grand prédicateur dominicain, d'un champ mieux labouré, on est en droit d'attendre des fruits plus abondants. De même, on peut d'un chrétien exiger des vertus plus nombreuses que d'un païen, parce que celui-là a plus de grâce à sa disposition et un savoir surnaturel qui doit l'encourager à la vertu. Chaque catholique a des droits et devoirs, il a droit aux moyens de sanctification de l'Église. Très important dans la grise actuelle. Et il a l'obligation d'obéir au chef de l'Église dans les choses de la religion, de contribuer à leur entretien ainsi qu'aux frais du culte, etc. Voilà, Spirago, qui développe un peu ce que dit Permanent. Alors, on va voir ces trois principes constitutifs. Et presque, ce sera très facile de voir le contraste avec ce qu'on a actuellement. Premier constitutif, la foi. La foi, c'est la lumière. Alors, ça éclaire tout de suite la question de la crise. On ne veut pas d'accord pratique tant qu'on n'est pas sûr qu'on adhère à la vraie foi catholique. Donc, on va discuter doctrinalement. Et c'est nécessaire. Pourquoi ? Parce que nous sommes avec des gens qui sont pleins d'équivoques et qui cultivent l'équivoque, plus ou moins volontairement. Souvent, c'est par leur formation. On ne juge, on ne fait pas un procès d'intention. Pas toujours. Mais leur formation fait qu'ils cultivent l'équivoque. L'équivoque en philosophie. L'équivoque en théologie. Et dans toutes les parties de la théologie. Ils ont horreur de la définition, ces gens-là. Horreur de la définition. Quand vous donnez votre définition, dites ce que vous entendez par là. Vous êtes un vilain scolastique du XIIIe siècle décadent. Non. Définition. L'intelligence a besoin de l'essence des choses. C'est une des raisons pour lesquelles on ne doit pas douter de nos pasteurs, des théologiens qui vont être employés puisqu'il y aura discussion doctrinale. Parce qu'ils ont une formation où ils veulent qu'on précise les choses. Vous définissez, vous distinguez. Ils ont horreur de la distinction. Horreur de la distinction. Ils n'aiment pas ça. Oh, vous commencez à aller dans des schémas scolastiques. Ouais, et vous, qu'est-ce que vous cultivez ? Des schémas de néo-scolastiques qu'on trouve dans des métaphysiques décadentes. Quand il y a de la métaphysique ? Parce que souvent, c'est Kant, Hegel et compagnie. Bon. Alors, la foi en est la lumière. Les sacrements entretiennent la vie. La hiérarchie est là pour... Elle est là pour quoi ? Pour enseigner la foi catholique et donner les vrais sacrements. Voilà. Père Emmanuel. Pourquoi la foi est-elle le premier de ces principes constitutifs de l'Église ? Parce que pour aller à Dieu, il faut avant tout la connaître. Le connaître, pardon. Connaître Dieu. Pour aller à la vie éternelle, il faut savoir qu'il y a une vie éternelle et que Dieu nous y appelle. Aussi, la première chose que demande l'Église à celui qui veut être baptisé, qu'est-ce que vous voulez recevoir ? Que demandez-vous ? La foi. La foi. Comme disait Monseigneur, nous l'a répété combien de fois dans les conférences spirituelles, dans ses sermons, la vérité, d'elle-même, elle est intolérante. Elle ne tolère pas l'erreur et le mensonge. C'est comme ça. Ah oui, mais vous possédez la vérité. Vous possédez la vérité. Ce que nous a dit un prêtre, là, des années... Un prêtre 68 tard, là, quand il nous avait pris en stop. Vous possédez la vérité. Et nous, on est en recherche. On est plus humble parce qu'on est en recherche. Comment alors appellerez-vous la foi ? La foi est le soleil des âmes. Elle éclaire les âmes, elle montre le chemin du ciel. Deuxième principe constitutif, l'Église des sacrements. Vous avez une instruction sur la liturgie. Je ne vais pas beaucoup m'y attarder. Mais l'importance, évidemment, d'avoir des sacrements valides. Le baptême avec de l'eau, au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. La matière eucharistique, pas avec du jus de pomme ou de je sais pas quoi, et de la farine de lait de riz. Bon, la défense essentiellement du sacrifice, la messe sacrifice propitiatoire eucharistique, ce que nous avons entendu à midi. Voilà, des sacrements qui soient catholiques, pas des sacrements équivoques. Avec l'hospitalité eucharistique, on va pouvoir accueillir les protestants qui n'ont pas la même foi que nous. Qui, lorsqu'il parle de présence réelle, c'est une présence réelle, mais vraiment très spirituelle. Et troisième principe constitutif de l'Église, la hiérarchie, l'autorité. Alors là, les conceptions de l'autorité chez les modernistes et protestants, c'est complètement faux, quoi. On fait en ce moment le traité de l'apologétique avec l'abbé Glaise, et il nous explique que les conceptions de l'autorité, aussi bien en philosophie politique qu'en théologie, c'est plein d'équivoques. Alors on va parler par exemple de l'âme de l'Église, mais l'âme, il y a deux sens à l'âme de l'Église. Il y a le sens de l'âme qui est le principe invisible qui meut le corps, et il y a l'âme en tant qu'elle dirige le corps. Alors on peut jouer sur les deux, et dans les textes, il joue sur les deux. Ce qui fait qu'on peut de temps en temps dire ben, l'Église est invisible, puis de temps en temps elle est visible. Il joue sur ce qu'on appelle en théologie la cause formelle. Donc l'âme, vous savez, qui est le principe du corps, un corps organisé, de tel type de corps qui fait qu'on est l'âme d'un être humain et pas l'âme d'un végétal ou d'un animal. Bon, tant qu'elle dirige, vous voulez, tant qu'elle pourrait exercer une certaine efficience. Bon. Donc en tant qu'elle marque sa supériorité sur le corps. Et l'âme, en tant qu'elle est un principe invisible. Et alors eux, quand ils vont surtout développer la doctrine du corps mystique, ils vont tellement insister sur le corps mystique qu'on a l'impression, enfin, plus ou moins, c'est plus ou moins implicite, enfin, ça ouvre la porte à ça, que l'Église, c'est surtout invisible. Ça ne peut pas aller, ça ne peut pas aller. Mais c'est pratique, ça permet de discuter avec les protestants. Parce que vous ne mettez pas les choses noir sur blanc, donc on fait ami avec le minimum dénominateur commun. Ça ne peut pas aller. Ça peut pas aller. Et même les vrais théologiens protestants, qui sont honnêtes, ils disent, l'Église catholique, souvent même, c'est amusant, dans les discussions, quand on a des fois des échos de conférences, de sessions, etc., entre théologiens et catholiques. Les protestants, des fois, savent mieux la théologie que les catholiques qui sont en face. Jusqu'ici, la théologie tridentine disait ceci, ceci, ceci. Qu'est-ce que vous dites maintenant ? Ah, ils n'osent pas, les catholiques. Oui, mais on a évolué depuis. Depuis 30, on a évolué. On n'est pas resté et arriéré. Une théologie tridentine, ils aiment bien ça. Théologie tridentine. C'était des abrutis à 30. Bon. Donc, il y a hiérarchie. Et avoir une juste conception de l'hierarchie. L'autorité est très importante dans la société. On définit une société par le bien commun qui est la finalité et par l'autorité. Si vous avez une fausse conception du bien commun et une fausse conception de l'autorité, ça donne des choses... Ça ne donne pas la vérité en tout cas. Hein. Pas la vérité. Ça ne donne pas la vérité de l'Église catholique. On ne peut pas suivre ça. Et la hiérarchie donc. Avec une hiérarchie instituant, donc les paroles de notre Seigneur instituant la hiérarchie. Voilà, les apôtres, les successeurs des apôtres. J'ai pas amené parce que je suis parti en catastrophe, il fallait pas que j'emmène trop de livres. Mais si c'est édité, si c'est réédité, peut-être le sel de la terre nous rééditera ça. Nous avons lu l'année dernière à l'occasion, ou il y a deux ans, dans les deux dernières années, les conférences du père Marie-Antoine avec les protestants. Je suis sûr que si l'avocat du diable il prend ça, on va pas pouvoir canoniser le père Marie-Antoine. Hein. C'est un arriéré, quoi. Il faut voir comment il parle avec le pasteur. Hein. Vous n'avez pas le droit de parler. Taisez-vous. Vous n'avez aucun titre à parler. Laissez-moi parler. Quels sont vos titres? Pourquoi vous parlez? Ah oui, l'inspiration personnelle intérieure, c'est ça? Non, nous, on a tradition et l'écriture. Ah oui, l'écriture, mais l'écriture interprétée, c'est incroyable. Ah, formidable. Ah, il y a du... Bon. Mais je pense que ça va gêner, si on doit le béatifier. Bon, je pense que les modernistes, sur l'ensemble, ils aiment bien le Père Marie-Antoine. Mais si on va regarder la discussion, on va sûrement pas parler de ça dans l'écuménisme. Votre moine, là, il était trop... Si les protestants apprennent ça, ils vont mettre opposition pour la béatification du Père Marie-Antoine. C'était pas un écuménique, hein. Je vous garantis que les protestants, ils s'en est pris plein la figure. Bon. Alors, donc il promet à son Église une durée pareille à celle du monde et donc l'Église est infaillible. Voilà. L'Église sort des mains de notre Seigneur, c'est lui qui l'a fondée. Il enseigna à la fausse apôtre, premier fidèle. Quelle foi notre Seigneur enseigna-t-il à ses apôtres? Celle que les apôtres enseignèrent à l'Église et que l'Église nous enseigne aujourd'hui, dans les vrais pasteurs, et enseignera jusqu'à la fin des temps. Quel sacrement livra-t-il aux apôtres? Les sept que l'Église nous administre aujourd'hui et administrera jusqu'à la fin du monde. Comment était composée la hiérarchie? Alors, bon, les apôtres, Saint-Pierre, les évêques. L'Église naissante n'avait donc point de prêtres. Les apôtres, étant évêques, restaient chargés par notre Seigneur d'ordonner les évêques, les prêtres et les diacres pour compléter la hiérarchie. Et après, il enclenche sur l'écriture. Je vois déjà la leçon 92. C'est un peu en supersonique. Bon. L'Église avait-elle les saintes écritures? Oh, sûrement pas, d'après les témoins de Jéhovah. Elle avait les écritures de l'Ancien Testament qui avaient été jusque-là conservées par le peuple juif. Mais les évangiles n'étaient pas encore écrits, pas plus que les autres livres du Nouveau Testament. L'Église n'est donc pas fondée sur l'écriture? Nullement. Elle est fondée sur la parole et par la parole de notre Seigneur, et elle est antérieure à l'écriture du Nouveau Testament. À dire aux TJ, là, qui nous visitent, et aux protestants. La tradition est plus importante que l'écriture sainte. L'écriture sainte est portée et interprétée par la tradition vivante, des vrais pasteurs. Qu'arriva-t-il alors aux livres du Nouveau Testament? L'Église eut à les examiner, les juger, pour reconnaître s'ils étaient vraiment inspirés par le Saint-Esprit et dès lors conformes à la tradition. Alors l'Église est juge des Écritures? Assurément! Notre Seigneur lui a donné le Saint-Esprit qui lui enseigne toute vérité, et étant ainsi avec elle, il lui fait reconnaître ce qui est écrit sous son inspiration, et lui fait juger infailliblement les livres et les doctrines. Et dernier chapitre qui nous intéresse, avant qu'on aborde la question de ce qu'on appelle des notes de l'Église, qui est capitale dans notre sujet. Leçon 93, les rapports de l'Église, de la tradition et de l'Écriture. Qu'est-ce que la tradition? Qu'appelle-t-on tradition dans l'Église? C'est la doctrine enseignée de vive voix par notre Seigneur aux apôtres pour être par eux transmise aux fidèles de tous les temps. L'auteur de ce livre... Ah, pardon, j'ai sauté une page. Mais n'est-ce point là toute la doctrine chrétienne? Assurément, notre Seigneur n'a rien écrit, il a tout enseigné de vive voix. C'est pourquoi l'Église parle, l'Église prêche, l'Église catéchise, l'Église transmet à tous la parole de Dieu comme elle l'a reçue dès le commencement, avec assistance infaillible. Alors ici, on appelle ça on appellera ça pour le pape, magistère ordinaire universel, etc. Le magistère de l'Église. Mais l'Église ne se sert-elle pas aussi de l'Écriture sainte? Elle s'en sert puisque Dieu lui a donné. Et pour nous instruire, elle emploie les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Point capital ici, comment faut-il considérer la tradition avec un grand T et l'Écriture? Alors écoutez bien, ça c'est presque à noter. Je veux bien répéter trois fois pour que vous l'ayez dans vos notes. La tradition est nécessaire, l'Écriture est utile. La tradition est nécessaire, l'Écriture est utile. Nécessaire, en logique, ne peut pas ne pas être. Ne peut pas ne pas être. Utile. Utile ad esse, comme on dit, pour être, pour l'essentiel, oui. Mais ad bene ou melius esse, pour que ce soit, pour que la tradition, il y a un bien, un mieux, pour la mémoire notamment, entre autres. C'est saint Paul qui le dit dans une de ses épîtres. « Mes frères, demeurez fermes et conservez les traditions qui vous ont été enseignées, soit de vive voix, soit par notre lettre, dans les Thessaloniciens. Et toute l'écriture est utile pour instruire, reprendre, corriger, etc. » Et alors le père Emmanuel, qui a l'esprit bien construit, nous dit « Comment la tradition est-elle nécessaire? Comment elle est nécessaire? En ce que seule elle contient toute la doctrine de notre Seigneur. C'est elle qui a jugé les Écritures, qui les a conservées intactes et qui nous les a transmises dans l'Église. Vous voyez que les protestants sont disqualifiés. Et certaines formes de modernisme aussi. Qui les a conservées intactes et qui nous les a transmises. Et l'Écriture, comment est-elle utile? En ce qu'elle nous fournit des témoignages irrécusables pour la confirmation de la tradition. Pour la confirmation de la tradition. Et pour la réfutation des doctrines mensongères. Voilà. Donc ça, c'est pour le catéchisme du Père Emmanuel. Alors maintenant, puisque maintenant on parle beaucoup des églises, non, il n'y a qu'une seule église, notre Seigneur. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique, apostolique, et nous ajouterons romaine. Voilà. Alors, unité de l'Église. On a déjà fait allusion, puisque c'est l'unité de foi, l'unité dans les sacrements, l'unité dans la hiérarchie. Unité de l'Église. Unité de la finalité, unité des moyens. Voilà. Propriété de l'Église, son unité. Une, sainte, catholique, apostolique, romaine. On appelle ça les notes de l'Église, ce qui nous notifie, ce qui fait connaître, ce qui est le signe que cette société est vraiment fondée surnaturellement sur notre Seigneur. Alors, il fallait que je donne la définition. Société surnaturelle, voilà. Qui donc unit les fidèles par une même foi, même sacrement, même baptême, même profession de foi extérieure, même hiérarchie, en vue du salut, cause finale. En vue du salut, de la sanctification et du salut. Voilà. Définition complète. En principe, il faudrait parler causes, les quatre causes. Enfin, analogiquement, parce que ça s'applique. Les quatre causes, normalement, s'appliquent à la réalité directement physique, naturelle. Mais on les applique aussi en théologie avec des distinctions. Hein, quand on fait des analogies, avec des distinctions. Les notes de l'Église. Une, sainte, catholique, apostolique, romaine. Parfois, bon, là, dans Fidélitaire, eux, ils mettent notes, ils mettent caractère de l'Église aussi, des propriétés intrinsèques. Bon. Ils ont l'air de distinguer les propriétés et puis les bons caractères intrinsèques. Alors, l'unité, dit la foi, les sacrements, soumis à une seule et même autorité suprême, dont la mission est de conserver l'Église une et invariable en tout ce qui la constitue essentiellement. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Est-ce que l'Église romaine a cette unité? Ben oui, même credo, même commandement de Dieu et même obéissance au pape. Voilà. Invariable dans sa doctrine. Ce qu'on appellera le même quand il y a de nouvelles vérités qui apparaissent, le progrès homogène du dogme. C'est la même graine qui a donné des fleurs et des fruits. Mais c'est toujours la même graine, développement du même arbre. Unité invariable, comment est-elle été manifestée? En rejetant impitoyablement de son sein tous les ennemis obstinés de son unité. Les hérétiques, les schismatiques. Ou leurs erreurs, au minimum, déjà. Et quel est le principe fondamental de l'Église pour demeurer invariable dans la foi? Celui de Saint-Vincent-de-Lérins, notamment, ce qu'on appelle dans le Communitorium. On ne doit rien innover et tenir comme deux fois ce qui dans l'Église a été cru. Partout, toujours et par tous. Partout, toujours, par tous. Très intéressant pour l'écuménisme, très intéressant pour la liberté religieuse. C'est sûrement pas partout, toujours et par tous, ce truc-là. Sûrement pas. C'est pas catholique, ça. Ah, ça va ressembler. Oui, ça va ressembler. Le nom nouveau de la charité catholique, c'est l'écuménisme et puis la liberté religieuse. Ouais, n'empêche, c'est pas une charité catholique. Ni l'écuménisme, ni la liberté religieuse, puis la collégialité, alors là, dissolution de l'autorité. L'instinct catholique. N'a-t-elle pas introduit quelquefois des dogmes nouveaux? Ben non, c'est des vérités qui étaient implicites, qui sont devenues explicites. N'y a-t-il pas parmi les théologiens catholiques des opinions diverses? Entre catholiques, il y a des choses, du moment qu'on reste dans la foi, il y a des choses qui peuvent être débattues en théologie. Ces opinions n'ont pas pour objet la substance de la foi, ni les dogmes révélés et définis, mais seulement des points accessoires sur lesquels l'Église ne s'est pas prononcée. Voilà. Alors aussi une citation, mais fidélitaire, qui aime bien les modernistes, mais ils en tirent des conséquences que nous ne tirons pas. L'Église veut l'unité dans les choses nécessaires. Très bien. Dans les choses douteuses, elle laisse la liberté. Ah, ça, ils aiment bien. Alors là, ils s'engouffrent là-dedans, surtout dans la deuxième partie. Ils ombrent un petit peu la première, puis alors. Dans les choses douteuses, elle laisse la liberté, Et elle recommande en toute chose la charité. Donc, insistez pas trop sur des vérités qui font mal aux protestants, à nos frères protestants. On s'aperçoit qu'on leur manque à la première charité qu'on doit aux autres, leur dire la vérité. C'est pas vrai qu'on doit les assommer, qu'on doit forcément faire tout le temps du rentre-dedans, c'est pas ça. Mais il faut dire la vérité aux gens, il faut dire la vérité aux musulmans, il faut dire la vérité. Alors bien sûr, on ne va pas forcément dire la même vérité quand on est seul à seul, quand on est en groupe, quand c'est une autorité officielle qui parle ou un individu personnel. Mais il y a quand même une cohérence entre les deux. Au temps où l'Église était la plus sévère contre les échimes et les hérésies, il y avait une grande charité des missionnaires. Unité dans les choses nécessaires, liberté dans les choses douteuses, charité en toutes choses. Très bien. Avec la bonne interprétation catholique. Sainteté. C'est la note essentielle. Vous avez des... Ils ont reconnu... ils y mettaient un sens que probablement... Ils n'en voyaient pas toute la portée, mais des pasteurs avaient dit « Il y a des saints que dans l'Église catholique. » Ah ben, c'est bien. Bon, il l'avait dit probablement dans le sens où nous ne canonisons personne, reconnaître des saints, c'est les idolâtrer. Mais c'est vrai que, de fait, il n'y a pas de saints de l'Église, à propre de l'Église catholique, pas de saints. Alors, il y a des cas controversés, parce qu'on vous parle beaucoup aujourd'hui de saint Séraphin de Sarov dans l'Église orthodoxe. C'est des cas tout à fait exceptionnels. Leur vie est sainte, sans doute. Sans doute. Bon, même des miracles réels. Alors ça peut poser justement des problèmes. Comment expliquer ça théologiquement? C'est sûrement pas pour glorifier l'Église orthodoxe. Sûrement pas. Bon, mystère à expliquer en théologie, certainement. Et puis c'est l'exception. Parce que le niveau général, c'est pas Saint Séraphin de Sarov. Hein. Bon. Bon, on vous dira, oui, les catholiques, c'est pas non plus Saint Vincent de Paul, ni tous. Non, c'est vrai. Enfin, la sainteté générale orthodoxe, l'Église orthodoxe, entre autres, n'est pas très missionnaire. Ils sont un petit peu racornis. On les a visités en Grèce où... Bon, c'est un peu racorni, quoi. Bon, c'est, leur liturgie peut être assez jolie, c'est vrai, enfin, belle même. Mais bon, ils ne sont pas très missionnaires. Hein, pas très. Bon. Ils ont certainement une tradition ascétique et mystique, à n'en pas douter, avec des erreurs. Dans la mystique, notamment, Grégoire de Palamas et autres, il y a des choses qui ne sont pas nettes. C'est mystique, théologie. D'ailleurs, ils tiennent saint Thomas d'Aquin pour un rationaliste. Vous parlez à un orthodoxe saint Thomas, rationaliste. Ils n'ont pas dû bien lire, je pense. Ils n'ont pas tout lu saint Thomas, je pense. Bon. Ou pas lu les livres qui étaient utiles, en tout cas, pour souvenir que c'est pas du tout un rationaliste. Pas du tout, du tout, du tout. Alors, la sainteté dans l'Église catholique. Sainte dans son fondateur. Sainte dans sa doctrine. Sainte dans ses œuvres. Que de conversion. Les barbares au Moyen-Âge, les peuples infidèles, la mission civilisatrice de l'Église. Les miracles. Ah oui, ils m'ont dit les miracles, c'était dans le passé. Non, il y a encore des miracles, oui. Ouais. Que soit le sang de Saint-Janvier, ou que sais-je, ou les corps incorrompus, ou que sais-je. Un Padre Pio, pendant les 50 ans où il a vécu sur Terre, c'était une preuve apologétique vivante. Vivante. On se demande comment ça se fait qu'il n'est pas plus connu que ça. Il était pourtant très connu, il y avait du monde. Hein. Bon. Les saints. L'Église a implanté dans le monde la vraie civilisation, régénéré la famille, la société. Il faut voir le paganisme, la polygamie, le divorce, le féminisme qui nous parle de l'état de la femme. Ouais, l'Église, elle n'a rien fait pour la femme. Les suffragettes du 19e siècle étaient panées quand on s'occupait de la femme dans l'Église catholique. Comment a-t-elle régénéré la société? L'esclavage, supprimant progressivement, gouvernement paternel des peuples, obligation d'obéir fidèlement au souverain. L'Église a-t-elle constamment contribué au progrès de l'humanité? Question posée à un franc-maçon. C'est nous le progrès de l'humanité. Nous construisons le temple de la liberté. Eh bien, progrès, l'Église catholique. Progrès matériel, progrès intellectuel, progrès artistique. Matériel, en réhabilitant le travail manuel, réservé dans l'Antiquité aux seuls esclaves. Maintenant, c'est dans les monastères. Et en répandant les véritables principes de l'économie politique. Progrès intellectuel, les universités et les petites écoles et les encouragements donnés aux savants. Que de savants catholiques. Quand on regarde ça dans les manuels d'apologétique, on est stupéfait. Le nombre de découvertes par des savants catholiques. Des mathématiciens, des biologistes, des inventeurs de... Qu'est-ce que j'ai appris encore l'autre jour? C'est un prêtre qui a inventé... Bon, c'est une science humaine, mais la graphologie, c'est un prêtre qui s'est intéressé à ça. En génétique, c'est encore un prêtre. Les premières découvertes géniques, un prêtre. Électricité, qui c'était alors des noms comme Cauchy, comme en maths, ça, c'est en maths. Plein, c'est plein de savants. Mais Pasteur, il se rendait chaque midi, il allait faire une de sa prière à l'église. Alors il disparaissait. Alors un de ses collègues, il était un peu curieux, il dit, où est-ce qu'il va? Puis vous entendez, Pasteur, ce savant qui rentre à l'église tous les jours, qu'est-ce que vous faites à l'église? Je prie, monsieur. Apprenez qu'un homme n'est grand qu'à genoux. Oh. Bon. Au progrès artistique, partant de chefs-d'œuvre en architecture, en sculpture, en peinture, en musique, en poésie. La civilisation catholique n'est plus à inventer, Saint Pie X, que c'est vrai. Qu'a fait l'Église pour les pauvres? Rien avant l'Église des pauvres de Vatican II, rien. Rien, rien du tout. Il a fallu Vatican II. Elle a inspiré le respect et la charité qui leur sont dus, ainsi que la fondation de ces innombrables établissements où trouvent un refuge les enfants abandonnés, les orphelins, les malades, les vieillards que le paganisme n'avait jamais connus. Catholique, répandue simultanément et toujours dans la plupart des pays connus. Alors là, bon, il y a des distinctions parfois à apporter, on ne peut pas le faire, ce serait plutôt un cours d'apologétique. Elle a la catholicité, caractère qui lui est tellement essentiel qu'on en a tiré son nom. On la nomme catholique, disait Saint Cyrille, parce que seule elle a le privilège d'être connue dans tout l'univers et d'avoir des sujets dans toutes les parties du monde. À son berceau, l'Église ne pouvait être répandue dans la plupart des pays connus, mais déjà elle possédait ce principe de diffusion qui est en elle radicalement et fondamentalement, la racine et le fondement, comme l'arbre est dans sa semence. Établie par les apôtres dans le monde entier, elle n'a jamais cessé depuis de faire entendre sa voix et de l'emporter par le nombre sur toutes les sectes dissidentes. Bon, le nombre actuellement, apparemment, j'ai vu ça récemment, là, les musulmans, c'est, ça a l'air d'être la première religion de pratiquants dans le monde maintenant. C'est plus les catholiques, hein. Impressionnant. Enfin apostolique, donc fondée sur les apôtres et les successeurs des apôtres. L'apostolicité. Et puis donc l'aspect, la divinité de l'Église dite romaine. D'ailleurs, c'est les anglo-saxons disent romaine catholique. Ouais, c'est toujours ça, romain, catholique romain. Elle est divine, on le voit par les miracles. Alors c'est très beau cette pensée de saint Augustin qui parlait aux hérétiques. Vous dites que l'Église, c'est. Il y a deux solutions, dilemme. On faisait déjà de la logique du temps de saint Augustin. Dilemme. Vous dites soit que l'Église s'est faite sans miracle, soit qu'elle s'est faite avec des miracles. Nous qui disons qu'elle s'est faite avec des miracles. Mais vous ne voulez pas accepter les miracles. Bon, aucun miracle. Eh bien, si l'Église s'est faite sans miracle, c'est le plus grand des miracles. Saint Augustin. Si avec toutes les persécutions, tout ce qui est arrivé, ça s'est fait sans miracle, c'est un miracle. Et il y a eu des conversions à cause de ça. Des gens qui ont étudié l'histoire. C'est passé. Qu'est-ce que c'est ce. C'est Hamish Fraser, quoi, c'est ça, c'est Hamish Fraser, quand il est allé, c'était un communiste, dans les années 36, la guerre espagnole, il était chargé par les communistes d'aller faire du agit-prop. Et puis il s'est mis à étudier l'Église catholique. Et il s'est converti, et il s'est converti, il s'est converti, en voyant ce que fait l'Église catholique, ce qu'est l'Église catholique. C'est très beau aussi dans la vie de Garcia Moreno, là, il était à Paris, étudiant, je ne sais plus quoi, en droit, ou je ne me souviens plus bien. Puis il y a une discussion sur l'Église catholique. Bon, ce n'était pas un catholique très fervent. Discussion sur l'Église catholique. Puis il s'est mis à défendre ardemment l'Église catholique. Puis ses amis, après, lui disent, tu as été un peu fort, hein, tu as défendu l'Église catholique, mais toi, tu pratiques quasiment pas. La foi, pour toi, c'est vraiment. C'est bon, tu fais le strict minimum, quoi. Ouais, tu as raison. À partir d'aujourd'hui, ça va changer. Alors il s'est mis à étudier, tellement à étudier, parce qu'il aimait beaucoup étudier avec Garcia Moreno, que pour ne pas sortir. Il avait coupé la moitié de sa barbe et pour pas être ridicule, il sortait pas de sa chambre pour bosser. Après quoi, il est rentré dans son pays, vous savez ce que ça a donné. Garcia Moreno, mais il étudiait. Il étudiait. C'était un grand scientifique en même temps. Il aimait faire des expéditions géologiques, etc. Bon. Il étudiait le droit, l'histoire, toute l'Église de Rohrbacher, là, les 20 ou 21 volumes. Tout le droit de l'Église, l'histoire de l'Église, tout. Ça fait un chef d'État, un chef catholique. Ah, c'est pas rien ce que produit l'Église catholique. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Un quart d'heure, 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure. On ouvre le catéchisme de l'Église catholique. Qu'est-ce qu'on trouve? La crise dans l'Église. Bon, pas besoin de vous donner des expositions, on y est depuis 40 ans. Deuxième chapitre, la foi. Donc, ça, c'est les principes posés. La foi, le magistère de l'Église. Quatrièmement, le Concile Vatican II. avec toutes ses équivoques, spécialement en certains textes. Il fait des distinctions très bien en disant, bon, il y a des textes qui sont tout à fait en ligne de la tradition, c'est sûr, c'est pas ça qui nous fait problème. Il y en a qui sont, même des textes qui pourraient être beaux spirituellement. Mais il y a des textes minés, dont on pourra tirer des conséquences après le concile. Donc les trois points qui ne passent pas, liberté religieuse, écuménisme, et puis la nouvelle messe. Et puis la conception du sacerdoce. C'est un peu ça qui vous est donné. Alors le combat pour la messe, vous le savez. Bon. Messe catholique n'a jamais été interdite, c'est évident. On n'avait pas d'état d'âme pour célébrer la messe Saint-Pie V avec la bulle quo primum. C'est évident. Mais il y en avait qui étaient gênés qu'on célèbre cette messe-là. Vous n'êtes pas catholique. Vous avez un esprit pré-schismatique. Comment ça se fait? Il y a 100 ans, on célébrait cette messe, on n'était pas pré-schismatique. Et maintenant, on la célèbre, on est schismatique. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vatican II, les protestants, la participation des protestants pour une nouvelle messe, pour que le sacrifice, ça puisse passer, parce que ça ne passe pas, le sacrifice, pour les protestants. Sacrifice propitiatoire, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Vous avez une religion doloriste. Dès qu'on parle un petit peu trop de notre Seigneur sur la croix, il veut une résurrection sans passion. Hein? Un Jésus dans les airs, sans la croix derrière ni les clous. Jésus. Bon. Et ça depuis 30, 40 ans. Alors, demande de libéralisation de la messe. C'est pas tant pour nous, parce qu'on n'a pas d'état d'âme pour célébrer cette messe. Hein. Pas du tout. Mais ça peut desserrer la conscience de certains. Et de fait, ça la dessert. Ça fait réfléchir, notamment des jeunes générations, des 25-35. Depuis qu'il y a eu des motu proprio, toutes les mesures, là, il y a des gens qui viennent nous voir et qui parlent et qui disent des choses intéressantes. Des états d'âme qu'ils avaient dans la tête, ils les disent maintenant, ils viennent nous les dire. Alors qu'avant, et très intéressant, jusque même dans les derniers articles, là, dans Sissi Nono, c'est le doyen de la faculté pontificale du Latran. Il nous dit des choses, pourquoi il ne l'a pas dit 10 ans plus tôt? Ah, c'était peut-être pas le moment, puis c'était dangereux, puis il a peut-être pris pour un tradi, un tigriste. Oh. Très intéressant ce qu'il dit. Très, très intéressant. Dans le dernier Sissi Nono, je dirais ça. Très bien. Bon, donc c'est pas pour nous ce truc-là. Même si, alors c'est très imparfait. Bien sûr, on peut faire des critiques, mais c'est imparfait. Mais enfin, ils l'ont dit. Avec les modérateurs, ils l'ont dit. Donc, un premier pas. C'est toujours bon à prendre, c'est bien. Alors, faut pas dire, bah, tout est desserré, tout va bien. Non, non. De toute façon, on n'avait pas besoin de ça, nous. En tant que terre, pas besoin de ça. Bon. Premier pas. Bon, ensuite, deuxième pas. Pour l'apostolat, est-ce que vous croyez que ça fait avancer l'apostolat quand tous les temps, on vous envoie la figure schismatique, excommunié, schismatique, excommunié? Non, l'apostolat ne peut pas. Vous êtes hors de l'Église. En plus, chez eux, vous voyez, c'est amusant. Bon, oui, c'est amusant. Moi, je fais un peu rire. Parce que leur excommunication, si vous parlez des fois avec même des prêtres ou des gens ou des chrétiens conscients, progressistes, etc., quand vous leur demandez qu'est-ce que c'est une excommunication, alors certains vous donnent la bonne définition, qu'est-ce que c'est telle chose, machin, bon, et les rapports avec le schisme, etc. Mais très souvent, leur excommunication, comme c'est des sentimentaux, l'excommunication, c'est la sortie du groupe, vous êtes à côté, quoi. Vous n'êtes plus en accord de sentiment avec... C'est une excommunication dans leur sociologie. Alors c'est une conséquence, l'excommunication. Mais ce n'est pas le fondement, d'abord, excommunier parce que... On est supposé avoir erreur, hérésie, désobéissance grave, voilà. Sans nécessité, sans fondement. Oui. Excommunié. Ça ne nous fait pas du tout de mal. C'est presque venant d'eux, c'est presque bien. Alors, intéressant, chers amis, intéressant. Bon. Il y a des gens qui ont des états d'âme parce qu'on va faire des discussions doctrinales. Mais quand on entend des déclarations d'évêques, de théologiens, ça, nous disent, bon, pour les meilleurs ou les moins bons, « Oh, de toute façon, il y a eu le schisme orthodoxe au IXe siècle, ça mettra beaucoup de temps à une discussion doctrinale. » Ah, ça a peut-être duré plusieurs siècles. Puis au bout, même avant plusieurs siècles, enfin, j'en sais rien, ils vont peut-être nous réexcommunier parce qu'on n'a pas bien compris la doctrine Vatican II et puis qu'on est buté. Alors, vous savez, hein, avant qu'ils mettent... Vous avez qu'à lire le Sissi Nono d'il y a un ou deux, là, la Béglaise sur la tradition. Avant qu'ils arrivent à mettre la clé dans le trou, ça va être difficile. D'abord, ils vont nous faire lire le catéchisme de l'Église catholique. Très bien, pour voir si on est catholique. Ben forcément, avec le catéchisme de l'Église catholique, vous allez trouver leurs hérésies, quoi. Il y a de très belles choses, hein, même dans les nouveaux catéchismes. Je ne dis pas ça pour vous en fassiez votre lecture spirituelle. Mais il y a un exposé pédagogique, des citations des Perses, du point de vue spirituel, de belles choses. Sauf où il y a les erreurs. Rapport avec les religions non catholiques, les juifs, les bons, et puis les protestants, et puis etc. Alors, là, il y a des erreurs. Pour le reste, il y a des qualités. Mais comme disait Monseigneur, dans une très bonne soupe, un très bon plat, un petit peu de strychnine. Est-ce qu'elle est bonne, la soupe? Ah oui, tout à côté, mais il faut l'éviter, la strychnine. Où est-ce qu'elle est? Un petit peu de strychnine. Un petit explosif. Alors, les deux choses qui ont été concédées, c'est sans doute très imparfait. Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai. N'empêche que c'est dit. On n'aurait pas conçu ça il y a 20 ans. Alors, troisième chose qui est demandée, cette croisade du rosaire. Vous aurez le rosaire demain matin. Je crois que l'instruction est dessus. Que vous soyez d'accord avec les deux premiers ou pas d'accord avec les deux premiers, on vous donne le moyen, on vous met dans les mains le moyen de rectifier tout ce qu'il peut y avoir d'imparfait dans les deux premiers. Alors, faut y aller! Faut y aller, pas d'état d'âme! Même pas d'état d'âme! Il est bien gentil, monsieur l'abbé Castelin, vraiment bien gentil, très gentil. Il y a une personne qui avait des scrupules, parce que dois-je offrir? Je suis consacré à la Sainte Vierge. Puis-je offrir pour la croisade, parce que mes intentions sont à la Sainte Vierge? Il est très gentil, très charitable. Elle serait venue voir, je lui tordais le cou. Vous ne pensez pas que la Sainte Vierge ait l'intention de rester. La première intention de la Sainte Vierge, après la glorification de son Fils, c'est de faire que l'Église sauve le maximum d'âmes. Alors vous imaginez que les rosaires qu'on va donner, elle ne va pas s'en servir pour ça? C'est du bon sens! Bon, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des scrupules si on est très théologique, très philosophique, très machin. Mais gardons notre bon sens, notre piété, notre foi, un don du Saint-Esprit. Quand on voit ce qu'ont fait tous ces gros chapelets qui ont été récités, 12 millions de chapelets qui sont demandés, ceux qui ont été faits avant, elle est contente, la Sainte Vierge. Elle est contente, c'est sûr. C'est beau ce mouvement de piété, c'est beau et c'est surtout, ce n'est pas une beauté apparente, car le beau n'est beau et intéressant que quand il est vrai et bien. C'est vrai et c'est bon. Et il faut faire ça. Alors, arrêtons, on disait ce matin, les hommes, mais aussi quelques femmes aussi. Je dis, ah, au sujet là, c'est pas parce que j'ai dit que les femmes aiment d'abord et ensuite que les femmes sont des imbéciles. J'ai pas dit ça. On sait jamais, vous pourriez dire, la femme flic-floc, c'est dans la tête. Non, j'ai pas dit ça. Je vous dis, plutôt, vous avez de l'amour à l'intelligence et votre intelligence est intuitive. Nous aimons bien peut-être trop raisonner. Nous aimons trop avec notre tête. Ou des raisons, ou d'une certaine forme de rationalisme masculin, sans doute. Pas chez tous. Il y a aussi les musclés qui n'ont rien dans la tête. Bon. Ou pas grand-chose. Donc nous avons l'occasion, par la piété envers la Très Sainte Vierge Marie, Mère de l'Église, qu'elle obtienne à la hiérarchie des lumières. Et c'est extra difficile, parce que là, il faut un miracle quasi. Un miracle de l'intelligence. Quand vous lisez dans le dernier ciel de la terre toute la formation qu'a reçue notre pape actuel, sa philosophie, sa théologie, etc., il est quasiment conditionné pour être un moderniste. Indépendamment de sa bonne volonté, indépendamment de sa piété, indépendamment peut-être de sa sainteté, il est conditionné pour être un moderniste. Sa piété envers saint Augustin, c'est très bien, et beaucoup de modernes ont de la piété envers saint Augustin. Mais c'est dangereux. Pourquoi? Parce que cette piété envers Saint-Augustin, de Saint-Augustin, vous pouvez tirer toutes les interprétations que vous voulez dans certains textes. Parce que c'est beau Saint-Augustin, c'est beau. Il a une âme qui vivre des problèmes éternels et qui touche beaucoup nos modernes, nos contemporains, et qui a touché spécialement, quand on lit la vie du cardinal, du pape Benoît XVI, ancien cardinal Joseph Ratzinger, il a été touché beaucoup par Saint-Augustin. Alors il faut lui souhaiter un miracle intellectuel. Qu'il n'est pas seulement l'Augustin subjectiviste qu'il peut avoir, qui touche le cœur, qui écrit très bien, qui est profond, qui est saint, qui est un grand converti, qui est un des plus grands docteurs de l'Église, il faut lui souhaiter la grâce, une grâce que le vrai saint Augustin touche son intelligence. Car le vrai saint Augustin, en haut, il est parfaitement en accord avec saint Thomas. Et pour bien lire saint Augustin, il faut d'abord lire saint Thomas. Parce que sinon, qu'est-ce que ça fait? Comme pour saint Bonaventure chez nous. Hein, on doit étudier les deux chez nous. On doit étudier saint Thomas, qui est patron de la philosophie chez nous. Et saint Bonaventure, patron de la théologie avec saint Thomas et patron de la vie mystique. On doit avoir trois sagesses. Mais, vu le contexte actuel dans lequel on est, de modernisme, de sentimentalisme, de romantisme sur saint Augustin, il nous faut, pour bien lire saint Augustin, bien lire saint Thomas d'Aquin. Et alors, ça vient fécond, effectivement. Tous les grands auteurs, le père Ambroise Gardeil ou d'autres, disent il faut lire saint Augustin. Mais quand on a d'abord reçu une théologie de thomiste, il n'a pas reçu une théologie de thomiste, et il se méfie, il le dit dans sa autobiographie, là, qui est très intéressante à lire. Il dit, je me méfiais, il explique ce qu'était le professeur de thomisme qu'il avait, qui était un converti, qui était converti de la philosophie moderne, qui avait quitté l'Allemagne pour aller étudier à Rome et recevoir la bonne théologie de saint Thomas d'Aquin. Donc il avait une grande conviction de saint Thomas, il dit qu'il avait un très bon professeur de saint Thomas. Mais il se méfiait, alors ça c'est typiquement moderne et probablement allemand aussi, des solutions trop parfaites, trop essentielles, trop ça tombait, trop, c'est trop logique, c'est d'une logique trop cristalline, ça ne lui plaisait pas. Évidemment, ça ne plaît pas quand vous faites votre lecture spirituelle dans Mauriac et Claudel. Ben, c'est évident que si vous lisez ça habituellement, ça ne peut pas aller, saint Thomas. Pourquoi? Parce que vous prenez un habitus d'affectivité. Au lieu de faire fonctionner votre intelligence, vous faites fonctionner votre pouet-pouet. Pour bien lire saint Augustin, pour bien lire saint Bonaventure, bien sûr, en ayant supposant qu'on ait leur vie intérieure de ces docteurs, il faut étudier saint Thomas. Ce n'est pas du rationalisme, c'est la sagesse de l'Église. Il faut étudier saint Thomas. Alors vous me direz, mais nous, fidèles, ben vous avez le catéchisme du Père Pègue. C'est très bien, ça donne des idées précises. Le saint Thomas, la somme mise à la portée des fidèles. Très précis, très clair. Un enfant de 15 ans, de 14-15 ans, comprend ce qu'il y a dedans. Bon, il y a des passages plus difficiles, mais... Donc vous, a fortiori, des adultes. Et puis si vous ne comprenez pas, vous interrogez vos prêtres. Nous avons un devoir aujourd'hui, bon, d'étudier le catéchisme. Tout le monde ne peut pas étudier la philosophie, d'accord. Encore que quand il y a des livres comme L'être incurieux ou autre, il faut avoir un peu de philosophie, c'est important. Parce que la plupart des erreurs modernistes, c'est de la philosophie falsifiée qui a pénétré la théologie catholique. Des concepts, des distinctions qui sont fausses et qui pénètrent et qui pervertissent la théologie catholique. Et un des principaux problèmes qu'on a dans les discussions doctrinales, parce qu'on va voir des gens qui ne sont pas thomistes en face d'eux. Alors, un abbé m'a dit, un confrère m'a dit, que dans la commission, il y aurait le père Moreno, là, donc du côté de Rome, qui enseigne à l'Angelicum. Alors, au moins, on aura peut-être un vocabulaire commun. Espérons, si ce n'est pas un thomisme relu à je ne sais pas quelle lumière. C'est important aujourd'hui, ça. Hein, très important. Et vos enfants, vous voyez, dans la question des écoles, bon, les filles chez Dominicaine, aucun risque, les garçons. Pourquoi on veut souvent, c'est pas toujours l'examen, on voudrait qu'ils aillent jusqu'à 18 ans pour qu'ils reçoivent, ou alors qu'ils le reçoivent quand ils sont au MJCF, un bon cours de philosophie. Quand on regarde la philosophie, même si c'est pas le super top, le Colin des années 20 ou Maritain, bon, dans les éléments de philosophie, il y a pas mal de choses à redire. Mais enfin, on enseignait ça à des enfants de 15, 16 ans, 18 ans. Des trucs que maintenant, même un séminariste à 21 ans, 22 ans, il se gratte la tête. À croire qu'il y a, comme me disait un père dominicain, mon pauvre père, on est des races dégénérées, des fins de série. Ouais, c'est tout à fait ça.